je me réjouis toujours et je suis toujours encouragé dans les Écritures de voir comment Dieu prend soin de ses enfants, n'est-ce pas ? Dieu prend soin de ses enfants. Et ce soir, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, parce que je pense que Dieu, et je ne pense pas simplement parce que c'est vraiment la parole de Dieu qui le déclare, Dieu prend soin de nous de manière particulière, dans notre propre vie, parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu personnel. Il a un plan pour chacun de nous. Et ce soir, j'aimerais qu'on partage, sur la base de la parole de Dieu, l'exemple d'un homme dont Dieu a pris soin de manière très particulière. Et nous allons lire ensemble un roi. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. Un roi, au chapitre 17. Nous allons voir donc l'exemple de cet homme dont Dieu a pris soin de manière extrêmement particulière. Un roi, chapitre 17, à partir du verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de Dieu fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Pour bien comprendre pourquoi Élie fait cette déclaration au verset 1er, il faut se replonger dans le contexte du livre des rois. Au moment de ce récit, le royaume d'Israël est divisé en deux. Au nord, il y a Israël et au sud, il y a le royaume de Juda. Et le royaume d'Israël, qui est au nord, là donc où intervient Élie, est dirigé à ce moment-là par un roi qui s'appelle Akab. Et le contexte était terrible, mes frères et sœurs, en ce moment-là. Le contexte était terrible parce que Akab est un roi qui est infidèle vis-à-vis de Dieu. Le contexte était très compliqué. Et quand on lit, par exemple, dans 1 Roi, chapitre 16, si on lit un peu plus haut, 1 Roi, chapitre 16, verset 25, on va voir que la Bible nous dit que au fur et à mesure, tous les rois, chaque nouveau roi, réagissait de manière un peu plus mauvaise que le roi précédent. Par exemple, le père d'Akab, qui s'appelle Omri, dans 1 Roi chapitre 16, verset 25, la Bible dit « Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. » Et ensuite, au verset 30, même 1 Roi chapitre 16, « Lorsque le fils d'Omri, donc Akab, va prendre le trône, la Bible dit « Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, même plus que son père. » Et ça ne s'arrête pas là, parce que vous le savez, Akab va prendre pour femme Jézabel, qui est une princesse païenne. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. On connaît Jézabel pour sa perfidie, pour vraiment sa manière de manipuler les autres. Et elle a usé de son influence, de sa manipulation, pour influencer son mari, Akab. Parce que Jézabel va user de son influence pour faire adopter en Israël le culte de Baal comme le seul culte où tout le peuple d'Israël devait adorer le dieu Baal. Et Akab, son mari, va encore aller plus loin puisque Akab va construire un autel en honneur de ce dieu Baal. Donc c'est dans ce contexte-là qu'Élie intervient. Et dans 1 Roi chapitre 17, verset 1er, c'est la première fois dans la Bible qu'on entend parler d'Élie. Et Élie, le prophète, dans ce contexte qui était épouvantable, terrible, il va être mandaté par Dieu pour aller annoncer au roi Akab le jugement divin. Ce jugement qui avait pour but de ramener le peuple d'Israël, de ramener le roi Akab à la repentance. Et là, Élie va annoncer à Akab qu'il n'y aura ni rosée, qu'il n'y aura ni pluie sur le pays pendant à peu près 3 ans et demi. Et on trouve cette information dans l'épître de Jacques, chapitre 5, au verset 17, pendant 3 ans et demi. Et c'est ce que Élie va annoncer au roi Akab. Et tout de suite après cette annonce, Dieu va dire quelque chose de spécifique à Élie. Dieu va lui dire, pars d'ici. pars d'ici. Et c'est à partir de là que nous allons vraiment rentrer dans la pensée que j'aimerais partager avec vous. Pars d'ici. Lorsque Élie déclare qu'il n'y aura ni rosée ni pluie à Akab, à ce moment-là, Élie se trouve à Samarie, qui est donc la capitale d'Israël. De la Samarie au torrent de Korit, il y a à peu près 50 kilomètres. Et Dieu va dire à Élie, pars d'ici, pars d'ici. Il y a plusieurs leçons, je pense, à tirer de ce passage. Mais ce que j'aimerais partager d'abord avec vous, avant d'entrer dans les trois leçons que j'ai identifiées, les trois leçons bibliques, ce qui m'a frappé en lisant ce texte pour la première fois il y a quelques années, c'est que Élie va obéir à Dieu. À chaque fois que Dieu va lui dire, pars d'ici, va là-bas, j'ai ordonné au corbeau, Élie va obéir spontanément à Dieu et Dieu va prendre soin de lui à chaque fois. Chaque lieu où Dieu demande à Élie de se rendre n'est pas une succession de coïncidences, loin de là. Mais chaque étape, chaque situation qu'Élie va vivre, ce seront des étapes qui ont été prédéfinies par Dieu parce que cela répond à un plan divin. Alors, il y a trois leçons bibliques que j'aimerais partager avec vous ce soir au travers de ce passage. La première leçon biblique que nous voyons au travers de ce récit sur Élie, c'est que là où Dieu me demande d'aller, lui-même a déjà tout prévu pour ma protection et ma nourriture de chaque jour. Autrement dit, lorsque je suis dans la volonté de Dieu, lui-même a déjà tout prévu pour ma protection et pour ma nourriture de chaque jour. Voici la première leçon que nous allons voir. Protection, nourriture de chaque jour. Dieu ordonne à Élie de se rendre près du torrent de Kérit pour s'y cacher, premièrement. Le mot hébreu Kérit signifie trancher. Et vous savez que sur un champ de bataille, et ça a été le cas par exemple pendant la Première Guerre mondiale, les tranchées servent à se protéger, à se mettre à l'abri du camp ennemi. Donc Dieu va dire à Élie, va à Kérit, va dans cette tranchée, là je te protégerai. Parce que Dieu comprenait très bien la situation dans laquelle Élie se trouvait. Élie va annoncer cette prophétie au roi Akab. Akab va être fâché, il va être pris de colère. Et n'oublions pas que Akab a avec lui une femme qui n'est pas tendre, Jézabel. Donc, dans un premier temps, Dieu va dire à Élie, va à Kérit, va dans cette tranchée, là je te protégerai. Ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que finalement, à la place d'Élie, j'aurais sans doute dit, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de faire 50 kilomètres pour me cacher? N'es-tu pas le grand Dieu qui peut me protéger là où je suis? Ne peux-tu pas m'envoyer dans une grotte? Et puis là, je serais quand même beaucoup mieux protégé qu'au bord d'un torrent. Toutes ces questions, Élie aurait pu se les poser. Mais vous savez, le plus important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Amen. Le plus important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Dans la famille, dans l'église, dans mon entreprise. C'est donc une question importante que je dois me poser continuellement. Est-ce que là où je suis, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et si j'ai la conviction que la réponse est oui, alors je n'ai aucune crainte. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppressions de l'ennemi, je sais que c'est Dieu qui m'a placé là où je suis. Parce que ce lieu Kérit, qui signifie tranchée, protection, ce n'est pas Élie qui a choisi ce lieu, mais c'est Dieu qui lui a dit, va à Kérit, là je vais te protéger. Dieu dit à Élie d'aller à Kérit pour le protéger. Mais ce n'est pas simplement tout. Parce que notre Dieu, comme je l'ai dit en introduction, c'est un Dieu qui prend soin de nous dans les moindres détails. Non seulement il va protéger Élie contre la colère d'Akab, mais il va prendre soin d'Élie physiquement. Parce qu'il a prévu quoi, Dieu, au torrent de Kérit? Il a déjà prévu l'eau, n'est-ce pas? Et l'eau est un élément vital. Vous savez, on peut peut-être se passer de l'électricité, on peut se passer un jour, peut-être on n'aura plus de pétrole, on va peut-être s'en passer. Mais l'eau est essentielle à toute vie humaine. Et moi, ce que je retiens de là, c'est que Dieu, lorsqu'il nous met quelque part, il sait ce qui est vital pour nous, ce dont nous avons besoin. Il le sait. Et c'est pour cela qu'il envoie Élie au torrent de Kérit alors qu'il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse dans le pays. Et l'eau, un élément vital. Deuxièmement, ce qu'il a prévu, c'est qu'il va ordonner à des corbeaux. Je ne sais pas si vous imaginez des corbeaux. Déjà, ce n'est pas un animal qui a un physique très attrayant. Mais en plus, les corbeaux, le corbeau est un animal impur. Et pour Élie, homme de foi, c'était vraiment quelque chose de un contraste assez saisissant. Le corbeau, qu'est-ce qu'il mange ? De la graine. Mais le corbeau, il va aussi sur des cadavres. Et Dieu va ordonner à des corbeaux de nourrir Élie, matin et soir. Il va être nourri de quoi, nous dit la parole de Dieu ? De pain. Alors j'ai voulu aller un peu plus loin. J'ai fait quelques recherches pour savoir, mais le pain, est-ce que c'était du pain comme la baguette ou le pain qu'on mange le matin, nous ? Alors j'ai vu que le pain, le mot utilisé ici dans la parole de Dieu, dans 1 Roi 17, le mot hébreu pour pain, c'est l'échem. Et l'échem, en hébreu, signifie nourriture au sens large. Ça veut dire viande, pain, peut-être aussi qu'il avait des fruits. Donc, Dieu avait déjà tout prévu. Il n'y avait pas seulement du pain, mais il y avait de la viande, il y avait des fruits. Et tout ça amené par des corbeaux. N'est-ce pas saisissant ? Et moi, je retiens de cela que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, il nous tient non seulement à l'abri, mais il prend soin de nous physiquement. Alors j'ai besoin de me poser la question ce soir. Seigneur, suis-je dans ta volonté ? Suis-je dans ta volonté ? C'est une question importante pour tout chrétien. Parce que lorsqu'on a conscience d'être là où Dieu veut que nous soyons, lorsqu'on prend conscience surtout qu'on est à notre place, bien à notre place, il y a plusieurs bienfaits à cela. Premièrement, lorsque je prends conscience que je suis à ma place, c'est un gage de sécurité, comme nous l'avons vu dans le cas d'Élie. Et dans les moments d'épreuve, on n'est pas terrassé par le doute. Dans les moments d'épreuve, dans les moments de tribulation, on n'est pas terrassé par la frustration de dire « Mais pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur, elle est plus bénie que moi ? Et pourquoi ce n'est pas encore mon temps ?» Non, je ne serai pas dans la frustration, parce que je sais qu'à ce moment-là, Dieu m'a positionné dans tel lieu, et c'est pour un but précis. Je ne serai pas non plus dans l'amertume. Et enfin, lorsque je prends conscience que je suis là où Dieu me place, ou là où Dieu me veut, c'est aussi une force et une assurance. Et je peux dire, Seigneur, malgré les assauts de l'ennemi, malgré les oppressions, Seigneur, c'est toi qui m'as placé dans ce lieu. C'est toi qui m'as placé dans ce pays. C'est toi qui m'as placé dans cette famille. C'est toi qui m'as placé dans cette entreprise. C'est toi qui m'as placé dans cette église. Et je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Et je suis sous ta garde. Amen. Et nous avons, mes frères et sœurs, besoin d'avoir la paix. Dieu ne nous a pas promis que nous aurons une vie facile sur terre. Mais ce qui est important, ce qui est vital pour un chrétien, c'est vraiment d'être en paix en faisant la volonté de Dieu. Amen. C'est d'être en paix en faisant la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même le déclare. Dans Jean 4, au verset 34, Jésus va dire à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et en faisant la volonté de Dieu, Jésus savait qu'il devait passer par des tribulations. Mais il était en paix parce qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Le psalmiste David également va déclarer dans Psaume 143, verset 8, « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. C'est donc une prière quotidienne, mes frères et sœurs, que nous devons avoir. Seigneur, suis-je là où tu veux que je sois ? C'est donc un travail permanent dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir l'assurance d'être là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Donc, lorsque Dieu m'envoie quelque part, lorsque je suis dans la volonté de Dieu, Dieu prévoit tout à l'avance. Il prévoit tout pour notre protection, mais il prévoit tout également pour nos besoins physiques. Il prend soin de nous. La deuxième leçon que je tire de du passage que nous avons lu dans 1 Roi, la deuxième leçon, même lorsque les bénédictions semblent s'épuiser, Dieu continue de prendre soin de moi si je m'attends à lui. Lorsque les bénédictions semblent s'épuiser, Dieu continue de prendre soin de moi si je m'attache à lui. Revenons à Élie. Dieu lui dit, « Va auprès du torrent de Kérit. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Matin et soir, il y a les corbeaux qui viennent, qui lui donnent des fruits, de la viande, du pain. Il a de l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit d'Élie à ce moment-là. Il s'est sans doute dit, mais c'est une situation pérenne. Élie jouissait d'un confort extraordinaire. Et puis à côté d'un torrent, on peut imaginer également la fraîcheur dont il pouvait jouir. Mais au verset 7 de 1 Roi, chapitre 17, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Mais au bout d'un certain temps, l'eau torrent fut à sec. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le Seigneur envoie Élie près du torrent de Kérit, nourriture, eau à satiété, fraîcheur du torrent. Mais au fur et à mesure, Élie constate que le niveau de l'eau diminue. Et nous l'avons dit tout à l'heure, l'eau est quand même vitale. Ce qui m'a frappé dans le texte, c'est que la Bible ne nous dit pas si Dieu avait arrêté les corbeaux. Sans doute que les corbeaux avaient continué à amener de la viande, mais il n'y avait plus d'eau. Et on peut manger tout ce qu'on veut, mais si on n'a plus d'eau, on ne peut pas vivre. Mais là, le torrent fut à sec. À ce moment, qu'aurait pu faire Élie ? Voici Élie qui est habitué à des bénédictions, et puis tout d'un coup, le torrent fut à sec. Humainement, Élie aurait pu prendre les choses en main, et puis de dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans cette situation ? Ben, je vais creuser. Il n'y a plus d'eau, je vais creuser par moi-même, je vais voir si il n'y a pas encore de l'eau. Je vais peut-être aller dans un autre lieu. Parce que la tentation naturelle, la tentation humaine, c'est de rétablir les situations par nous-mêmes. Lorsque nous sommes devant des difficultés, lorsque les bénédictions s'arrêtent, on a envie de rétablir les situations, les bénédictions que nous avons eues dans le passé. Parce que c'est toujours difficile de quitter quelque chose qu'on a, de quitter nos traditions, de quitter nos habitudes. Et lorsque toute période de changement arrive, il y a cette tentation naturelle de se dire « mais c'était mieux avant, c'était bien, pourquoi ça change ?» Et vous savez, ce qui caractérise l'être humain, c'est que l'être humain par-dessus tout n'aime pas le changement. D'ailleurs, c'est pour cela que dans les entreprises maintenant, et même dans, j'ai vu ça dans une émission, même dans des grandes assemblées aux États-Unis, au Canada, il y a des coachs pour gérer le changement. L'être humain n'aime pas le changement. L'être humain aime bien le confort. On aime bien que l'avenir soit sûr. On aime bien notre petit confort. Mais là, Dieu va venir challenger Élie. Voici un homme qui a toutes les bénédictions et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Et ça me fait penser à l'histoire de Jonas, dans Jonas 1er. Qu'est-ce qui arrive ? Jonas est un prophète, mais Jonas voulait être un prophète, un petit prophète, mais il ne faut pas qu'on le dérange trop. Et donc, il veut bien parler au nom de Dieu, mais dans la ville où il est confortablement assis, il n'y a pas de guerre, tout le monde connaît Dieu, c'est parfait. Mais lorsque Dieu va lui dire, Jonas, pars à Ninive, là c'est compliqué. Et on connaît la suite de l'histoire. Donc quitter quelque chose qu'on connaît bien pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas nous dérange toujours. Et on le vit quotidiennement dans nos vies. Changer de métier, c'est difficile. Changer de quartier, déménager, c'est aussi difficile. Changer d'église, c'est également difficile. Changer de pays pour ceux qui viennent de loin et qui se sont établis en Suisse, c'est aussi difficile. Voir l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi difficile, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des enfants. Et inversement, perdre un être cher, c'est également difficile. Mais ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est que dans toute période de changement, nous devons avoir le réflexe de nous placer devant Dieu, d'interroger le Seigneur. Seigneur, tu m'as béni dans le passé. Tu as pourvu à mes besoins physiques, spirituels. Maintenant que les choses sont en train de virer, maintenant que les choses évoluent négativement, qu'est-ce que tu veux me dire ? Quelle est ta volonté dans cette situation ? Que veux-tu que je fasse ? Où veux-tu me conduire à présent ? La parole de Dieu dans 1 Roi 17 ne nous dit pas que Élie s'est plaint. On voit simplement que Dieu va dire à Élie à ce moment-là, dans le verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta. » Et au verset 10, on voit qu'Élie se leva et il alla à Sarepta. Il ne discute pas le plan de Dieu. Simplement, il obéit à la voix de Dieu. Donc lorsque nous sommes dans des situations de changement, nous avons peut-être été bénis, nous avons eu un travail, nous avons eu peut-être une famille en paix, et puis tout d'un coup, c'est la zizanie au sein de la famille, entre les enfants, les parents contre les enfants. Nous avons peut-être eu un travail, et maintenant c'est un temps de chômage. Plaçons-nous devant Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire dans cette situation ? Parce que autant qu'on sera sur terre, il y aura des changements. Mais il y a quelque chose qui ne change jamais. Vous savez ce que c'est ? La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Et Dieu ne change jamais. Il est toujours à nos côtés, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Dieu ne nous place jamais dans une situation difficile sans qu'il ait prévu une suite à cela. Je l'ai expérimenté moi-même dans ma propre vie. Je voudrais partager courtement un témoignage parce que je suis arrivé en Suisse il y a maintenant 3 ans. Lorsque je suis arrivé en Suisse, donc je suis arrivé avec un statut d'expatrié. Donc pour ceux qui connaissent le statut de l'expatrié, donc c'est quand même un statut assez confortable. où donc tout est pris en charge, l'école privée des enfants, l'appartement, etc., etc. Et puis, au bout d'un certain temps, un peu comme Élie, au bout d'un certain temps, pour une raison totalement qui reste encore inconnue pour moi, mes responsables parisiens m'ont demandé de rentrer en l'espace de 3 mois. Alors, avec mon épouse, Midge, et moi-même, nous sommes mis devant la face de Dieu pour vraiment chercher la face de Dieu parce que nous étions déjà bien intégrés dans cette assemblée. Et puis, il y avait un période de changement que venaient de connaître nos enfants. Nous ne voulions pas de cela. Alors, nous avons prié et Dieu a ouvert les portes miraculeusement. Ce serait un peu trop long d'expliquer ça ce soir. Mais Dieu a ouvert les portes miraculeusement puisque ma situation a été en arbitrage à la direction générale à Paris jusqu'à ce que, donc, du coup, j'ai pu rester en Suisse, mais sans le statut d'expatrié. On m'a offert un poste ici en Suisse qui était certes intéressant, mais qui ne répondait pas non plus à mon niveau de qualification et l'expérience que j'avais eue jusque-là. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que j'occupe ce poste. Et puis le 27 décembre dernier, alors que j'étais en vacances chez la famille à Paris, j'ai fait un songe où le Seigneur me mettait autour d'une table avec la direction générale ici. Et puis je me suis réveillé donc le 27 décembre. Je me suis posé la question, mais Seigneur, c'est quoi ce songe? Puisque je ne travaille pas avec la direction générale, pourquoi je suis dans cette réunion et je me vois à côté du directeur général? Donc, on va dire, je n'ai pas prié là-dessus. Le 28 décembre, j'ai fait exactement le même rêve. Alors là, j'ai prié. Je me suis dit, Seigneur, tu veux me dire quelque chose? J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tout est entre tes mains. Je suis rentré au travail le 3 janvier 2017. Et le 3 janvier, je reçois un coup de fil de l'assistante du directeur général qui me dit que donc le directeur général veut me voir. Donc j'ai été à cet entretien. Et puis là, il me propose d'être son directeur de cabinet. Extraordinaire. Extraordinaire, mes frères et sœurs. Donc Dieu ne nous met jamais dans une situation difficile sans qu'il ait prévu une suite à cela. Il nous sort de nos habitudes, de nos traditions, de notre confort, mais c'est pour nous faire vivre quelque chose de plus grand qu'il a prévu pour nous. Amen. Là où Dieu me demande d'aller, lui-même a tout prévu pour moi. On l'a vu, pour ma protection physique, il prend soin de moi physiquement. Même lorsque les bénédictions semblent s'épuiser, Dieu continue de prendre soin de moi si je m'attends à lui. C'était notre deuxième leçon. Troisième et dernière leçon que je tire de ce passage que nous avons lu. En prenant soin de moi, Dieu m'apprend à dépendre de lui totalement par la foi. En prenant soin de moi, Dieu m'apprend à dépendre de lui totalement par la foi. Vous savez, Élie au torrent de Kérit apprend la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et cette leçon est capitale pour tout enfant de Dieu. Et ce qui est frappant dans la succession d'événements que vit Élie, donc il va à Vérakab, il a cette prophétie, Dieu lui dit « va au torrent de Kérit », il y va, donc il est nourri par les corbeaux. À un moment donné, le torrent s'assèche, Dieu lui dit « pars, va à Sarepta ». Vous savez, de Kérit à Sarepta, il y a à peu près 150 kilomètres. Donc, c'est quand même un périple. Hein, déjà de Samarie à Kérit, il y a 50 kilomètres. Ensuite, de Kérit à Sarepta, il y a 150 kilomètres. Donc, on a l'impression que c'est un feuilleton à rebondissement. Mais Dieu avait un plan. Dieu voulait également qu'Élie ne s'habitue pas à un type de miracle. Mais il voulait surtout qu'Élie s'habitue à l'auteur des miracles. Vous savez, c'est un danger pour nous, chrétiens. C'est un danger dans notre vie chrétienne de nous habituer aux miracles et de ne plus prêter attention au Dieu des miracles. C'est vraiment pour nous un danger en tant que chrétiens de nous habituer aux miracles et non pas à l'auteur des miracles. Nous devons nous habituer plutôt à l'auteur des miracles, à Dieu. Vous savez, c'est ce qui est arrivé aux Israélites dans le désert. Vous avez là 2 à 3 millions de personnes qui sont dans le désert, qui miraculeusement, chaque jour, ont la manne. Une manne qui peut nourrir jusqu'à 2 à 3 millions de personnes. Tous les jours, ils sont spectateurs de ce miracle divin. Alors, on pourrait se dire que les Israélites, ils vont être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Ils ne pourraient que faire confiance à Dieu dans cette situation. Miraculeusement, chaque jour, ils ont la manne qui descend. Non, pas du tout. Au contraire. Vous pouvez lire ça dans Nombre, chapitre 21. Au contraire, bien qu'ayant été spectateurs de ce miracle quotidien, cela ne va pas les empêcher de se plaindre. Et c'est ce qui, d'ailleurs, à cause de leur incrédulité, toute une génération va tomber. Toute une génération va tomber dans le désert alors qu'il y avait donc ce miracle. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre la manne que recevaient miraculeusement les Israélites dans le désert et les corbeaux qui venaient nourrir Élie. Le point commun entre ces deux éléments, c'est que dans les deux cas, Dieu a utilisé à la fois la manne, mais de l'autre côté, les corbeaux, comme un outil pédagogique. Dieu voulait apprendre quelque chose aux Israélites au travers de la manne, mais il voulait aussi apprendre quelque chose à Élie au travers des corbeaux. Il voulait leur apprendre que lorsque lui, le Seigneur Tout-Puissant, il prend soin de ses enfants, c'est pour qu'ils prennent conscience. C'est pour qu'ils prennent conscience qu'ils dépendent totalement de lui. Amen. Dieu éprouve notre foi au travers des situations qui nous semblent injustes, que nous subissons des maladies, des problèmes dans nos familles. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses, dans un but précis, pour faire grandir notre foi. Même quand tout paraît impossible, Dieu est là pour faire grandir notre foi. Je me rappelle de ce témoignage d'un chrétien, un jour qui a témoigné à l'église, et il expliquait ce songe qu'il a eu. Il était donc à la veille de passer à une autre année. Et puis dans son sommeil, il a fait ce songe où il voit un ange. Il est totalement dans l'obscurité. Et puis, il voit un ange paraître en face de lui. Et il va dire à l'ange, mais est-ce que tu peux dire à Dieu de m'envoyer la lumière? Et l'ange va lui répondre en disant, non, je ne t'enverrai pas la lumière. Mais Dieu est à côté de toi. Il te suffit de prendre sa main et tu pourras marcher avec lui dans l'obscurité. Vous savez, la vraie foi permet aux chrétiens d'aller de l'avant, même quand l'obscurité est profonde. Car il suffit de mettre sa main dans celle de Dieu. Et même dans l'obscurité, Dieu est avec nous. Et c'est pour cela que le prophète Ésaïe va dire dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. » Amen. Trois leçons, n'est-ce pas, que nous avons vues ce soir. Trois leçons au travers de ce récit d'Élie. La première, lorsque je suis dans la volonté de Dieu, lorsque je vais là où Dieu me demande, qu'est-ce qui se passe? Dieu pourvoit. Dieu prend soin de moi. Il a déjà tout prévu. Soin physique, mais la protection également. Comme il a fait avec Élie. Kérit, rappelez-vous, Kérit, ça signifie trancher, protection. Deuxième leçon, nous avons vu quoi? Que même lorsque les bénédictions semblent s'épuiser, qu'est-ce qui se passe? Dieu continue de prendre soin de moi. Et troisième leçon que nous avons vue, Dieu veut que je prenne conscience, que je dépende de lui. Alors mes frères et sœurs, Élie n'était pas un surhomme. D'ailleurs, l'apôtre Jacques va nous dire dans Jacques chapitre 5, verset 17, que Élie était un homme de même nature que nous. Donc ce que Élie a pu vivre, l'obéissance qu'il a pu avoir vis-à-vis de Dieu dans chacune de ses étapes, nous aussi nous en sommes capables ce soir. Je ne sais pas personnellement ce que vous vivez ce soir. Est-ce que vous êtes dans la phase où vous avez des bénédictions ou est-ce que dans la phase où le torrent est en train de s'assécher? Mais quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes ce soir, sachez que le Seigneur est à vos côtés. Et si nous adoptons comme Élie cette attitude d'obéissance vis-à-vis de Dieu, nous n'allons pas sombrer dans l'amertume, dans la déception. Nous n'allons pas être dans l'amertume lorsque Dieu ne nous répondra pas comme nous voudrions qu'il nous réponde. Parce que nous saurons saisir le plan qu'il a pour nous. Dieu a un projet précis pour chacun de nos vies. Que nous puissions vraiment rechercher la volonté, sa volonté pour nos vies. Dieu pourvoira d'une manière ou d'une autre à nos besoins. Vraiment, c'est la pensée que je voulais partager avec vous, parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu fidèle. Amen.